Eh bien, c'est toujours un privilège et puis un honneur de pouvoir vous voir, venir vous visiter et de parler au nom de Jésus-Christ, de partager la bonne nouvelle. On est bénis, n'est-ce pas? Et le Seigneur, ce matin, il veut faire encore un travail. Déjà, sa présence est ici. Nous sommes réceptifs et juste la pensée de l'Assemblée, la façon que Pasteur Fern prie les chants, ce que Mireille a partagé, c'est qu'il y a une espèce de rapprochement, de vouloir plus du Seigneur, d'aller plus loin et de donner, hein, vraiment de se donner. Et je crois, je ressens ce matin que le Seigneur veut nous lancer un défi. Nous sommes bien, vous êtes bien, mais savez-vous que le Seigneur ne nous laisse jamais staller, le Seigneur ne nous laisse jamais à la même place. Il fait toujours signe de venir plus loin, plus profond avec lui. Il n'est pas là avec un fouet, il n'est pas là en nous poussant, il est là nous invitant d'aller plus loin, plus profond dans le Seigneur. Est-ce que vous croyez cela? Donc le Seigneur nous défie, il nous lance des défis. On ne doit pas les interpréter comme une condamnation où on n'est pas assez bon, où le Seigneur ne nous aime pas, jamais de la vie. C'est un Dieu qui nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Et des fois, pour nous transformer, il faut que la fournaise chauffe. Amen. Je pense que nous avons tous appris cela et nous apprenons ça constamment. Et la paix nous est donnée de lui faire confiance. Amen. Un gros mot-clé dans la vie chrétienne, clé du royaume, c'est qu'on ne comprend pas, on souffre, on est mal à l'aise, on est dans la confusion, mais en plein milieu de cela, le Seigneur dit « Trust me, fais confiance ». Et ça aussi, ça fait partie du cheminement. Ça fait de la façon que nous vivons pour le Seigneur. Plein de choses que nous ne saisissons pas. Mais la paix nous est donnée. La volonté de Dieu nous est donnée. Fais-moi confiance. Mets ta confiance dans l'Éternel. Hallelujah. J'ai vu dans le bulletin que Pasteur Fern, il a dit une seule chose. Est-ce que c'était votre message ou quelque chose ou juste... Parce que je vais emprunter, de toute façon. Je vais emprunter ça comme titre du message ce matin. Une seule chose. Moi, je voulais tellement amplifier ou souligner la seule et unique chose. Ça serait le seul focus, j'en mets. Le seul focus à avoir, le seul but, le seul objectif. Avez-vous compris? Pour 2024 et pour le restant de votre vie. Et je veux souligner cela, et le Seigneur veut souligner ça profondément dans notre esprit, dans notre entendement, la seule chose qu'il veut dans notre vie. Évidemment, il y a plein de choses légitimes, plein de choses que le Seigneur nous donne, plein de choses dans la vie. Mais ce matin, le défi... Ce que le Seigneur veut, que ça soit pointu, qu'on vienne à la seule chose que le Seigneur va prioriser, qu'il va mettre en premier. Et ce matin, nous voulons nous aligner avec ce que lui veut. Amen? On ne veut pas faire un tas de choses, on va être pris là, puis pris uniquement par les choses de cette terre. C'est pas méchant, c'est pas des... Mais le Seigneur veut qu'on soit pris avec le Seigneur. Le Seigneur est venu pour nous prendre, pour avoir un héritage, pour avoir une église, d'avoir des gens qui aiment le Seigneur, qui reflètent la gloire du Seigneur. On a chanté ça. Oui, on veut refléter la gloire du Seigneur. On a été sauvés pour cela. Et le Seigneur est venu pour cela. Et le Seigneur nous aide. Et le Seigneur, son travail n'est pas fini avec nous encore. Il nous amène plus loin. Donc, la seule et unique chose... Et il y a des moments dans notre vie où l'Esprit Saint nous enseigne, l'Esprit Saint nous amène dans un endroit où nous comprenons ces choses-là. Et ça devient vraiment un objectif inspiré par le Seigneur. Puis l'objectif, c'est Jésus-Christ. C'est la présence de Dieu. C'est de glorifier le Seigneur. Et quand nous sommes dans l'Esprit, quand nous sommes touchés de Dieu, voilà ce que nous voulons dans la vie, plus que toute autre chose. C'est une priorité. Seigneur, tu peux tout prendre, mais Seigneur, je te veux. N'est-ce pas? C'est d'être syntonisé, harmonisé avec la volonté de Dieu. Donc le message, finalement, le titre dit tout. Et voilà ce que le Seigneur fait dans notre vie présentement. J'ai remarqué que tous ceux qui veulent réussir dans la vie et tous ceux qui veulent accomplir le plus sont ceux qui savent éliminer les distractions dans la vie, les choses secondaires. Et ce sont ceux qui poursuivent avec obstination leur objectif. Ils sont centrés sur une chose. Que ça soit dans le monde de sport, les gens se donnent à gagner, à se perfectionner. Que ça soit dans le monde de la science, que ça soit dans le monde de la musique, ce sont des gens qui se donnent pour un seul but et objectif. Que ça soit dans la médecine, ceux qui veulent trouver les découvertes pour, n'est-ce pas, guérir les gens. Ce ne sont pas des pensées qui viennent de temps en temps. Les gens sont centrés là-dedans et ils vont exceller. Dans un business, il y a des objectifs et les gens se donnent à cela et ils réussissent dans la vie. Ce principe, c'est pareil dans le domaine de l'esprit, dans la vie chrétienne. En réalité, la parole de Dieu, Jésus lui-même nous appelle, il nous exhorte et il va nous commander à ceci, à l'aimer plus que toute autre chose. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. C'est le modèle, c'est ce que lui veut. Fait que moi, je ne conforme pas Dieu à ce que moi je veux. Moi, je me laisse conformer à ce que lui, il veut. Et je bénis le Seigneur parce qu'il nous donne l'Esprit Saint pour accomplir cela. Nous ne sommes pas orphelins. Le Seigneur travaille fidèlement. Il met ses désirs en nous, le vouloir, et il donne le faire aussi. Ce qui n'est pas possible à l'homme avec nos forces, avec nos moyens, l'Esprit Saint nous amène dans un domaine où on croit et on saisit, on prend les promesses de Dieu. N'est-ce pas? On a la présence de Dieu en nous. Qu'il est bon, le Seigneur, qu'il est magnifique. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. On lui appartient. Le Seigneur veille sur nous. Et Paul dit, l'œuvre qu'il a commencée en nous, il va l'achever, il va le finir, je le crois. Le Seigneur est encore du travail avec moi encore, mais il va le finir. Et c'est la même chose avec chacun de vous. Le Seigneur nous aime. Il est jaloux de nous, la Bible dit. Il chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il a mis l'Esprit Saint en nous. Le Seigneur est jaloux de nous, il nous veut. Il veut qu'on soit son amant, fidèle, constamment. Centré sur le Seigneur. Donc, il nous appelle à l'aimer plus que toute autre chose, même plus que nous-mêmes. Wow! Il nous appelle aussi à une seule chose, c'est de chercher la gloire de Dieu plus que ma propre gloire. Une grosse commence, là. Mais le Seigneur, il le fait. Il nous appelle aussi à chercher en premier, pas en deuxième, en premier, le royaume de Dieu et sa justice, et dès toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est une promesse. Pouvons-nous prendre ça pour du cash? Est-ce qu'on peut le croire? Est-ce qu'on peut le mettre en pratique? Est-ce qu'on peut réajuster notre façon de voir la vie, notre philosophie de la vie? Est-ce qu'on peut ramener ça à s'aligner avec chercher premièrement le royaume de Dieu? Oui, on le peut! parce qu'il a mis son royaume en nous. Il a mis sa pensée en nous. Et nous sommes devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, je veux ce royaume. Ce royaume du monde, Seigneur, j'ai compris, je veux rien savoir. Ça donne des grosses promesses, mais regarde ce que ça donne. Regardez la pensée de l'homme. Regardez ce que, la façon que l'homme vit présentement et les décisions qu'ils prennent, les gouvernements, ce qu'ils prennent. Regarde ce que ça donne. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a un gouvernement qui s'en vient. Il y a un royaume qui s'en vient. Et Jésus, c'est le chef de ce royaume. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia! Alléluia! Oui, Seigneur, ta gloire, nous voulons ta gloire, Seigneur, pas la gloire de ce monde, Seigneur. Tu as donné ta vie, Seigneur, tu as consacré ta vie pour que ce royaume s'installe en nous et s'installe visiblement. Seigneur, on a hâte de te voir. Mais Seigneur, maintenant, on veut vivre pour toi, ta gloire et ton royaume. Curieusement, quand je pense à ceci, de se centrer sur le Seigneur, son royaume, sa vie, sa gloire, et curieusement, ça me fait penser d'un tireur d'élite. Un bon sniper, on appelle ça en anglais. J'ai regardé sur Google, on dit en anglais aussi sharpshooter, c'est un, je pense que ça se dit en français, un tireur pointu. J'ai appris quelque chose, hein, ça se dit? Fait que je pense que vous l'avez l'idée, là. Un tireur d'élite... c'est quelqu'un qui est concentré. C'est une personne qui est disciplinée. Sa job, c'est une chose, descendre cela, atteindre ça, éliminer ça, n'est-ce pas? Et puis, il peut rester immobile pendant des heures de temps. On dit qu'un tireur d'élite, là, même s'il y a un brin d'herbe qui bouge, lui, il voit. Il est tellement concentré, il veut faire, il mange pas de la crème glacée à côté, là. Il est centré sur ce qu'il fait. Tant que le job n'est pas fait, bien, il est là. J'ai même lu qu'un tireur, ils peuvent être comme couchés, enfin, peut-être c'était une personne, il était couché, et il y avait même des fourmis qui piquaient, qui mangeaient. Ça fait rien. Il n'y a pas de « Ah, non, non, non ». Il se laissait mordre par les petits insectes. Il était concentré. Quelle discipline! Et il y a un passage que j'aimerais vous lire, c'est l'apôtre Paul. Hein? L'apôtre Paul, c'est pas un faible. Hein? L'apôtre Paul, c'est pas un gars « Oh, ben je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu, puis on verra ». Quand le soleil brille plus, ben, hein? Non, l'apôtre Paul, là, c'est on appelle ça un bulldozer. Un bulldozer, c'est tout. Et voilà ce qu'il dit sous l'inspiration de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens, chapitre 9 et 24. Il dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent, mais qu'un seul remporte le prix? Courez! » Vivez, si vous voulez. Courez de manière à le remporter. Comment est-ce que vous courez ce matin? On peut s'examiner. On peut laisser le Seigneur nous lancer un défi. On peut se laisser corriger dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos objectifs. Il dit, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. » Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Alléluia. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Ce n'est pas du shadow boxing ici, là. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Moi, je vois ici un amour pour le Seigneur. Je vois aussi la crainte du Seigneur. Paul dit, je ne cours pas n'importe comment. Je cours pour gagner le prix. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Est-ce que sommes-nous disciplinés? Et je parle à moi-même. Sommes-nous des gens qui se parlent, qui se regardent dans les yeux et on dit, voyons Greg, que fais-tu là? Est-ce qu'on peut surprendre avec l'aide du Seigneur? Est-ce qu'on peut prendre par le collet par en arrière des voyants? Excusez-moi. Ou est-ce qu'on dit, oh ben, mon pauvre, ben, ça fait juste 30 ans que je suis sauvé, puis enfin. Est-ce qu'il y a un langage que j'entends, que le Seigneur, dans son amour avec moi, il dit, écoute là, on vit pour le Seigneur, on met le Seigneur en prime. Est-ce qu'on va se donner de la place pour la chair? Est-ce que c'est basé sur moi ou est-ce que c'est basé sur ce que le Seigneur veut? Paul, il se donnait. Paul, pour vivre pour le Seigneur, il y avait du sacrifice. Il sacrifiait. Et dans la vie chrétienne, laissez-moi vous dire une chose, puis vous le savez, moi je le sais, c'est qu'on est appelé à sacrifier. On est appelé à se renoncer à soi-même. On est appelé à suivre le Seigneur, peu importe le prix. Dites-vous amen. Nous sommes tous appelés. Je sais que nous le faisons tous. Nous sommes tous en route. Mais le Seigneur vient et il veut qu'on aille plus haut, plus loin, plus profond dans le Seigneur. Qu'il soit de plus en plus le Seigneur de ma vie, que je sois à la Seigneurie de Jésus-Christ. Que je le glorifie au maximum. Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Et on vit dans un monde où tu fais ce que tu veux, et puis regarde, la société glisse dans un état de vie où n'importe qui est permis, et même on glorifie, on élève toutes sortes de perversions, toutes sortes de choses que c'est carrément contre la volonté de Dieu. Mais nous ne sommes pas de ce siècle, et on ne se laisse pas teinter, ou on ne se laisse pas influencer par la pensée du monde. Le royaume de Dieu est en nous et nous sommes dans le royaume de Dieu. On a une autre façon, on glorifie le Seigneur et on dit souvent non à nous-mêmes, mais on dit oui, l'autre côté, on dit oui au Seigneur. On n'est pas juste des chrétiens avec un camisole de force, tu n'as pas le droit de faire ci, non. On est des gens qui disent oui à Jésus-Christ. Et Jésus dit, en faisant ça, on a la vie abondante. La vie abondante n'est pas là, la vie abondante est en lui. Et nous sommes en lui, et lui, il est en nous. J'aimerais vous amener à un passage, maintenant que l'introduction est faite. On veut aller dans le psaume 27, c'est David. David aussi est un exemple de quelqu'un qui était fixé sur Dieu, la volonté de Dieu, la gloire de Dieu. Il vivait pour cela. Le psaume 27 dit ceci. L'Éternel est ma lumière, pardon, et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le psaume 27, verset 1er. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alléluia. Je demande, et puis voici le verset clé, le verset 4. Je demande une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer dans son temple. Un peu plus loin dans le chapitre, c'est le verset 8 maintenant, il dit, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. » Dans le verset 11, « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture. » Versets 13 et 14, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel et fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. David, un homme qui a vécu toutes sortes de choses, c'est tout un homme, un guerrier, un tueur de géants, un poète, un chanteur, un soldat, guerrier, enfin, tout un homme. Mais David, il avait tout ça, puis il était roi en plus, juste à côté, à temps plein quand même. Hein? Il était tout cela, mais le cœur de David, puis dans Samuel, 1 Samuel, il dit que David, que Dieu avait choisi David, un homme selon son cœur. Pouvez-vous imaginer cela? Un homme pas parfait, il y avait des défauts, des péchés, comme nous. Le Seigneur l'a pardonné. Mais David avait cette beauté en lui, il avait cette nature, cette sensibilité, cet objectif. Il pouvait comprendre des choses. Et ce qui était le premier dans sa vie, c'était quand même Dieu. Et les Israélites, les Juifs l'aiment encore. Et même Jésus est issu de la postérité de David. Dieu a pris David, il était un petit berger. Un petit jeune homme que le prophète est venu et tous ses frères ont été rejetés et Dieu dit à Samuel, c'est bien lui. Il se rasait même pas, ça sentait les brebis et puis le prophète, Dieu dit, c'est lui. Dieu a vu en lui un roi. Dieu avait vu quelque chose de spécial en David et il est devenu un roi aimé comme jamais personne n'a été aimé parmi les rois d'Israël. Et on voit dans ce passage, on voit comme une espèce de fenêtre qui s'ouvre et on voit le cœur d'un homme. Un homme qui a glorifié Dieu. Un homme qui a élevé le nom de Dieu d'Israël sur toute la terre. Et David était cet homme. Et on voit dans cette prière, en plein milieu de cette prière, on voit son cœur, on voit sa raison d'être, on voit sa passion, on voit la seule chose qu'il voulait, et on voit également ce qu'il a, où il mettait la valeur plus que toute autre chose. Il dit, je demande à l'Éternel une seule chose. Qu'est-ce qu'il demande ici? Ben, il demande l'intimité avec Dieu. Il vise sa relation avec Dieu plus important que toute autre chose. Faisons-nous le ce matin. Est-ce que le Seigneur veut nous pousser, nous amener, nous inviter à cette place où on est toujours en amour et toujours cet amour nous fait faire des choses. Cet amour nous fait donner aux autres, mais cet amour nous fait que nous donnions à lui. Ça, c'est le christianisme. Ce n'est pas de faire un tas de choses pour être vu, pour je ne sais pas quoi, mais c'est on se donne à Dieu et de cela, des bonnes choses coulent. Des générosités. Les gens sont bénis. Donc, David, il avait certainement ce cœur. Il voulait donner à Dieu. Il dit, je demande une chose. Quelles sont les choses qu'on demande? Quelles sont les choses que vraiment on veut un objectif dans la vie, on peut en avoir. Et on en a tous des objectifs, que ce soit pour nos enfants, notre travail, business, et ainsi de suite. Ce sont des bonnes choses légitimes. Mais en haut, le top de la liste, c'est quoi? C'est quoi qui nous anime? C'est quoi l'aspect éternel? C'est quoi la chose la plus importante? C'est qu'on enlève cela, on enlève ça. Et puis des fois, le Seigneur, il permet ça, qu'on enlève ça, on enlève ça. Pourquoi? Pour qu'on ait une chose qui domine dans ma vie. C'est de vivre pour le Seigneur. C'est de se donner. On s'est déjà donné, mais on vit un style de vie où on se donne continuellement. Dites-vous amen. On est des gens qui se donnent. Oh, je l'ai fait, pasteur. Ça fait 15 ans que je me suis donné au Seigneur. Bravo! Bravo! Mais hier, la semaine passée, est-ce qu'il y a eu des moments où tu viens devant le Seigneur dans l'humilité? Seigneur, je m'offre. Je me donne à toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux ta présence. Seigneur, tu vois ce que je vis présentement. Seigneur, approche-toi de moi. Seigneur, je m'approche de toi. Voilà. C'est dans cette attitude de dépendance On ne veut jamais devenir un chrétien indépendant. « Oh, ben, je connais la Bible, j'ai des dons, j'ai des positions, j'ai... » Enfin, hein? Non, je ne me dépends pas de moi. Paul dit, je ne mets pas aucune confiance dans la chair. Paul, il aurait pu. Paul était qualifié. Paul était quelqu'un respecté dans le monde. Savez-vous ce qu'il a fait? Il dit, j'appelle tout cela comme les déchets. Je ne dis pas ce que le grec a dit là, mais... Il dit, je mets un X dessus. Il dit, afin de gagner Christ, afin de poursuivre le Seigneur. Seigneur, mets en nous, Pasteur Ferner, prier pour un feu, un renouvellement. Voilà ce que c'est. C'est pas de toutes sortes d'excitations physiques. Évidemment, le Seigneur se manifeste. On n'a pas peur de cela. Mais quand on met le Seigneur en premier et on le veut, eh bien, tout va découler de cela, n'est-ce pas? La présence du Seigneur. Et quand on veut le Seigneur plus que toute autre chose, savez-vous ce qui va arriver? Le Seigneur va arriver. Et quand le Seigneur arrive, c'est le feu. Tout ce qui est en nous qui a besoin d'être enlevé, ben le feu le fait. Pas pour nous détruire, pour nous consumer, de consumer ça. Pour faire place à ce que le Seigneur veut. Moi, je dis, Seigneur, viens. Viens, souffle sur nous. Seigneur, oui, donne-nous l'Esprit Saint. Remplis-nous. Oui, on a l'Esprit Saint. Mais combien savent que plus qu'on a de Dieu, plus qu'on veut de Dieu. Et moins qu'on a de Dieu, moins qu'on veut de Dieu. Le Seigneur veut des chrétiens un peu radicaux, ce temps ici. Là. Je ne sais pas si vous voulez signer, là, il y a quelques... hein? Oh, des gens qui disent, « Non, Seigneur, je te veux. » C'est ce que le Seigneur... Lui, il a tout donné. Le Seigneur s'est vidé, le Seigneur a laissé ses attributs au ciel, le Seigneur a mis beaucoup de choses à côté, il est devenu humble, il a souffert la mort de la croix, et il s'est donné, il nous a aimés jusqu'au bout, il a tout donné. Et la réponse aux chrétiens, toujours, ce n'est pas du nouveau, ce n'est pas du vieux, c'est toujours de se donner à lui, corps, âme et esprit, de se présenter comme un sacrifice vivant. Vous savez, le vrai christianisme, il y a toujours un sacrifice. Le Seigneur fait son sacrifice, mais maintenant, il nous appelle de se présenter, Romains 12, comme un sacrifice vivant. Wow! Il y a du défi ici ce matin. Le Seigneur, dans son amour, et puis c'est toujours dans son amour, il nous défie. Avons-nous les oreilles pour entendre ce que l'Esprit Saint dit à son Église? L'Église... Je parle en général, l'Église a besoin d'entendre sa voix. L'Église a besoin d'entendre cet esprit de sacrifice, de se donner plus que jamais. J'ai entendu une histoire peut-être vous l'avez déjà entendu, c'était dans le temps, ça fait, dans le temps, c'était des petites usines de bois dans le village, et puis le contremaître a donné une commande à un jeune homme, un employé qui avait du brillant, qui était bien. Je ne sais pas, j'oublie les détails, mais ceci, il avait un contrat d'avoir des morceaux de bois, des planches, disons de 6 pieds. Fait qu'il dit, on a besoin de 200 morceaux de bois. Fait qu'il a coupé le premier 6 pieds juste. Mais ce qu'il avait fait, c'est que le deuxième qu'il avait coupé, il a mesuré le troisième avec cela. Le troisième, il a mesuré ça avec le quatrième. Puis il arrive à la fin, il y avait une grosse différence entre le 6 pieds juste. Et dans le christianisme, c'est ce qu'on avait fait. Dieu nous a donné le modèle et les églises, les dénominations sont venues, eh bien, on va ajouter cela. La religion a amené une perfection à cela, une perfection à côté. Si on veut savoir ce que c'est Dieu, ce qu'il veut de nous, comment le chrétien, de quoi il a l'air, on va ici. Ne regardez pas nécessairement les uns les autres. Les églises, c'est on revient à Jésus-Christ, on revient aux Écritures saintes, dites-vous Amen. Et on a juste à regarder sans juger, sans être difficile, sans mépriser qui que ce soit. C'est qu'on voit souvent un évangile qui est prêché. On appelle ça, j'appelle ça des coachs de la vie. Là. On ne dit pas certainement ou souvent ce que le Seigneur exige, ce que le Seigneur demande de nous. C'est qu'on centre le message sur l'homme. Ça fait des années qu'on élève l'homme. C'est l'homme qui compte, c'est ta pensée, c'est tes droits. Et puis là, on vient maintenant que ça s'est infiltré dans l'Église, et même les messages, et puis écoute, c'est pas moi qui vais enseigner tout le monde. Moi, je remarque quand même, je suis assez vieux d'avoir pu observer les choses. Et j'ai vu que souvent, ou bien souvent des églises, ça peut être des grosses églises, ça peut être des petites églises, peu importe, mais c'est qu'on est centré sur l'homme et ce que lui, il veut. Le centre du message a toujours été et sera toujours Jésus-Christ. C'est lui, c'est ce que lui a fait pour nous. Et ce n'est pas ce que moi je peux faire pour vous. Être riche, d'avoir, de rêver, d'avoir toutes sortes de choses, de commodités. Souvent, on est axé sur le matériel. Puis si vous croyez, si vous vous joignez à l'Église, le Seigneur va vous donner toutes sortes de choses. Et on fait appel à des choses charnelles. Le Seigneur dit, viens suis-moi, prends ta croix. Wow! Tu dis ça, Seigneur? Bien, je vais vous le montrer dans Marc le chapitre 8. Voilà ce que Jésus dit. 8 et 34, il dit, « Puis ayant appelé à la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Seigneur, tu n'as pas fait ça tellement invitant. Tu as fait des promesses que j'aurai deux automobiles, puis que j'aurai de la prospérité, que je... Non, le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, dans le christianisme original, depuis toujours, il y a une croix. La croix parle de quoi? De l'exécution. Jésus dit, on se charge de sa croix, autrement dit, on meurt à nous-mêmes. Wow, c'est un message qui n'est pas tellement, il n'est pas, dans le temps dans lequel on veut, c'est centré sur le moi. Le moi est glorifié, édifié, et puis tu peux mettre un brin de Jésus là-dedans si tu veux. Jésus n'est pas un add-on, Jésus est le centre, il est le tout. Allons un peu plus loin dans ce chapitre parce que ça m'interpelle, ça m'invite, ça nous invite chacun de nous. Il dit que quelqu'un se charge de sa croix et qu'il me suive. Vivre pour le Seigneur, c'est lui le berger, c'est lui le boss, moi je le suis. On est disciple de Jésus-Christ. Avec l'aide de Dieu, on suit, non pas nous-mêmes, non pas nos rêves. Écoute, le Seigneur veut infiltrer en nous, il veut nous donner sa rêve à lui. Il veut nous donner les choses qu'il a à cœur à lui. Je m'accorde avec lui et je dis, Seigneur, je veux faire ta volonté. Non pas ma volonté, Seigneur, je veux faire ta volonté. Où sont les chrétiens? Nous sommes de ceux-là et nous tenons à rester dans cette façon de penser. Seigneur, que ta volonté soit faite toujours et ça va nous coûter quelque chose. Sommes-nous prêts à payer le prix? Tous ceux qui aiment le Seigneur, tous ceux qui veulent, vont compter ça comme un privilège, un plaisir de souffrir ou de sacrifier. Paul, Silas et les autres étaient en prison. Ils étaient frappés, battus avec des verges, enfin, emprisonnés. Ils chantaient les louanges et bénissaient le Seigneur pour le privilège de souffrir pour le Seigneur. Hello! Puis nous, si on a à souffrir un petit peu, on chiole. Excuse-moi. C'est parce que je me connais. Je ne vous connais pas, mais je me connais, la nature humaine. Et puis, à un moment donné, David, il dit, il voyait les autres prospérer. Les riches, il dit, ça va bien. Ils n'ont pas des troubles que j'ai. Il dit, Mais il dit, « Seigneur, j'étais comme une bête. » Il dit, « J'ai pensé comme ça jusqu'au temps que je suis venu dans le temple, dans le sanctuaire. » On a besoin de venir dans le sanctuaire. On a besoin de venir dans sa présence pour que le Seigneur aligne notre pensée et qu'on dise, « Seigneur, merci pour le privilège que j'ai. J'ai dit, rejeté cela, ça n'a pas marché. Mais Seigneur, je suis en toi, tu es mon Père, je suis fils et fille de Dieu. » Et on bénit le Seigneur pour qui nous sommes en lui. Amen. Alléluia. Oh, je suis content que je prêche ce message. J'ai besoin de cela. Et j'ai nettement l'impression que le Seigneur veut que j'aille plus loin. Non pas par mes propres forces, non pas par une idée religieuse que j'ai, bien, la vie chrétienne. Non, non, c'est humblement, avec sincérité. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, je veux être utilisé par toi. Je veux que tu sois glorifié. Veux-tu ôter de ma vie? Veux-tu me donner des choses pour que je sois utilisé, que je puisse glorifier ton nom? Moi, je pense qu'un chrétien, il fait ça volontairement, il fait ça souvent. Il dit, car celui qui voudra sauver la vie, sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, et la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte aussi de lui. Et quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Vous savez, quand on regarde ces Écritures et quand notre cœur est ouvert à entendre la voix de l'Esprit-Saint, on voit très bien que le Seigneur nous amène dans une profondeur, dans une compréhension des choses divines. On peut laisser notre vie être imprégnée par la pensée du monde qui est centrée sur nous, qui est centrée sur des mensonges, où on peut venir dans cette attitude de David, il dit, je demande à l'Éternel une seule chose, et cette communion avec Dieu. Puis quand on vient dans sa présence, eh bien, notre pensée s'éclaircit et on voit les choses correctement. Enfant de Dieu, on a besoin de voir les choses du point de vue de Dieu. On a besoin que notre pensée soit renouvelée. Le monde ne renouvelle pas notre pensée. Le monde obscurcit la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'on vient dans sa présence. C'est pour ça qu'on vient et on dit, Seigneur, on veut penser comme toi. Il dit, je veux, dans ce passage, il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Ça ne veut pas dire que rester juste dans le temple, parce que le temple, dans ce temps-là, était quasiment une tente. Mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il voulait rester dans la présence du Seigneur, dans où le Seigneur se manifestait sa présence, il voulait rester là. Il dit, pour contempler la magnificence de l'Éternel. Un chrétien qui contemple, un chrétien qui médite sa parole, un chrétien qui dissecte et qui voit un passage biblique, et peut-être on lit cela et on ressent quelque chose, puis on le relit encore une autre fois. Et peut-être on va prendre une autre version, on va lire ça dans une autre version. Et on médite cela, et puis on laisse ça pénétrer jusque dans nous. Et ça change notre vie. Ça change notre façon de voir, ça change nos objectifs. Ça met de la clarté, la confusion s'en va avec la pensée de Dieu. Oui, je veux contempler. Il dit, je veux contempler la magnificence de l'Éternel. Et dans une Bible, dans une autre version, il dit, je veux admirer son temple. Il dit, je veux inquire. Je veux aller plus loin. Et avec le Seigneur, c'est que on a le Seigneur en nous, on a le Seigneur pour nous, mais il y a aussi un appétit qui vient de lui. C'est que, Seigneur, je veux plus de toi. N'est-ce pas? On a ce désir, Seigneur, je veux plus de toi. Le Seigneur veut plus de nous et nous voulons plus du Seigneur. Eh bien, je vois que le temps est avancé et moi, je n'ai pas avancé suffisamment. Et fait que dans ce temps-là, on prend une décision ou bien il y a un trap door ici, là, où on va aller au sous-sol vite. Amen. Amen. Puis je termine juste avec deux, trois pensées. Billy Graham a dit ceci. Beaucoup de gens sont prêts à voir Jésus comme une partie de leur vie, aussi bien longtemps que cela leur ne coûte de rien. Quelqu'un a posé cette question. Quand est-ce que c'est le dernier temps ou la dernière fois que vous avez donné quelque chose de signifiant, d'important pour obéir à Dieu, que cela vous a coûté quelque chose d'assez important pour obéir à Dieu. Une autre citation. Nous avons tout le Seigneur que nous voulons, ou la quantité, si vous voulez, nous avons tout le Seigneur que nous voulons, et non pas dont nous avons besoin. Mais nous avons de Dieu tout ce que nous voulons. Enfin, c'est peut-être pas cité comme il faut, mais le Seigneur a bien plus d'autres choses pour nous. Donc, dans la vie, le Seigneur est là, il nous interpelle, il nous invite, il veut nous donner beaucoup de choses. Les choses, ça se trouve en lui. Et quand on est dans sa présence, il révèle lui-même qui est le but. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas vous changer vous-même. C'est en voyant le Seigneur. C'est en saisissant la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. C'est en dedans. C'est un cœur qui s'ouvre. C'est un cœur qui s'approche de Dieu. Ce matin, tout simplement, je crois que le Seigneur, son message est clair pour chacun de nous, peut-être moi le premier, c'est que Seigneur, je te veux et Seigneur, je m'offre tel que je suis. N'ayez pas la pensée que je vais me nettoyer, je vais me travailler, je vais faire des choses, puis après ça, je m'approche de Dieu. Vous allez rester longtemps et vous n'allez pas vous approcher du Seigneur. Quand on est venu au Seigneur, c'est tel que je suis. Et maintenant, en tant que chrétien, toujours tel que je suis. Et le Seigneur fait la job. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on a chanté le chant, l'avant-dernier chant. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on peut juste prendre deux, trois minutes? Est-ce qu'on peut chanter ça? Je pense que c'est l'avant-dernier chant. Est-ce que les musiciens peuvent s'avancer?